Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine Huchette, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle chronique, votre coach et vous, ensemble pour parler aujourd'hui de style de communication. Alors nous allons donc découvrir tout cela ensemble et puis le développer au fur et à mesure de différentes chroniques. Qu'est-ce qu'un style de communication ? Peut-être une petite définition pour commencer.
Alors effectivement, il y a énormément de définitions de ce que peuvent être des styles de communication. Ce que je vous propose dans cette nouvelle chronique, c'est de vous parler des 6 postures d'écoute de Monsieur Porter, qu'on appelle également style de communication. Et ces 6 postures d'écoute sont, on les détaillera bien entendu, mais pour le moment je vais les citer, sont le jugement, la décision, le soutien, l'interprétation, l'enquête et aussi la reformulation.
Quelques mots sur ce fameux monsieur Porter, Elias Porter, qui, je crois, a été disciple de Carl Rogers, quelqu'un que vous appréciez, d'autant plus que vous avez suivi la formation autour de Rogers.
Effectivement, mais écoutez, monsieur Porter est donc psychologue, il est américain. Il est du siècle dernier, puisqu'il est décédé en 1987, et il a travaillé avec Carl Rogers sur l'approche centrée sur la personne. Donc effectivement, ils sont à l'origine de cette approche centrée sur la personne, c'est-à-dire de cette attitude que toute personne qui rentre en relation interpersonnelle avec quelqu'un d'autre doit avoir, notamment quand il est dans une posture d'accompagnement. Alors, Elias Porter était psychologue, Carl Rogers était psychanalyste, et donc ce sont des personnes qui recevaient d'autres personnes et elles accompagnaient donc leurs patients pour que ces derniers puissent évoluer, se sentir mieux, trouver leur voie. Donc ils ont expérimenté un certain nombre d'attitudes et ils se sont rendus compte que certaines attitudes étaient plus propices à l'accompagnement, au fait de laisser de la liberté aux autres également, donc de ne pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler une posture de conseil. Alors, Carl Rogers, lui, a été donc la première personne à nous parler d'empathie. Alors aujourd'hui, bien sûr, l'empathie, tout le monde en parle. Par contre, moi, si vous le permettez, je vous en parlerai une prochaine fois. J'essaierai de rentrer dans le détail et de redonner ces lettres de noblesse à l'empathie. Parce que l'empathie, c'est quelque chose de très important et c'est aussi quelque chose de très spécifique. Et on peut-être aujourd'hui, en utilisant ce mot un petit peu trop souvent, on en a perdu vraiment la valeur et l'essence même de ce qu'est l'empathie.
C'est vrai qu'il y a des mots devenant à la mode, ils ont tendance malheureusement dans notre langage à perdre pleinement leur sens.
Tout à fait. Et donc Carl Rogers vous a parlé donc d'empathie, il nous a parlé de congruence, c'est-à-dire qu'en fait, bien qu'on accompagne les personnes et bien qu'on soit au service de l'autre et le plus possible centré sur l'autre, il faut que ce que nous vivions soit en congruence avec nous-mêmes, donc en congruence avec nos valeurs et en congruence avec ce qu'on est capable d'accepter de l'autre.
Alors là, c'est un mot encore plus compliqué qu'empathie. Empathie, on pense à sympathie, même si c'est pas tout à fait la même chose, loin s'en faut d'ailleurs. Congruence, ça, c'est un terme qu'on rencontre rarement, donc je vais vous demander un petit effort de vulgarisation là, s'il vous plaît, Christine.
Alors, justement, c'est assez difficile pour vulgariser la congruence, mais la congruence, c'est être en accord avec soi-même. Donc, c'est-à-dire que accompagnant l'autre, on ne va quand même pas partir sur le terrain de l'autre. On va rester selon nos propres valeurs et selon nos propres convictions. C'est-à-dire que Carl Rogers nous propose de ne pas accompagner, de ne pas commencer un accompagnement si cet accompagnement nous coûterait trop cher en termes de valeur pour nous-mêmes.
Alors ça, c'est le deuxième point qui compose l'approche centrée sur la personne, empathie, congruence, et puis il y en a un troisième.
Alors le troisième, c'est le regard inconditionnel positif sur les personnes. Alors c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que ça va avec la congruence. Hein. Mais l'exemple que l'on donne toujours, qui est très très connu, hein, c'est par exemple dans le domaine du droit, une femme avocate qui devrait défendre un violeur. Donc effectivement, c'est pas simple, puisqu'on peut à ce moment-là être en difficulté, et pourtant c'est son métier et elle doit le faire. Et donc nous, dans l'accompagnement, on doit avoir aussi toujours ce regard positif inconditionnel sur les personnes lorsqu'elles viennent, et ne pas tomber justement dans la première attitude, qui serait une attitude de jugement. Voilà. Et pour revenir sur la congruence, parce que je ne suis pas certaine que je vous ai tout à fait convaincue, la congruence, c'est notre garde-fou. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se mettre à la place de l'autre, mais on nous ne demande pas de nier la personne que l'on est pour autant. Voilà.
Donc on reste soi-même.
Voilà, tout à fait.
Tout en étant pleinement à l'écoute de l'autre, puisqu'on est dans le cadre de l'écoute, bien souvent, par rapport à cette approche centrée sur la personne.
Tout à fait. Voilà, donc c'est notre protection, c'est notre garde-fou, c'est notre capacité, justement, à rester centré sur soi-même aussi, d'ailleurs.
Alors pourquoi avoir fait ce choix d'aborder la question des attitudes d'écoute, des styles de communication ?
Parce que c'est un sujet qui me passionne, dans le sens où je le trouve très très révélateur des différentes postures dans les relations interpersonnelles. Et pour avoir expérimenté donc ces différentes attitudes moi-même, pour les vivre au quotidien dans mon travail de coaching, puisque quand je reçois les personnes et que je suis en posture d'écoute, eh bien, quelquefois, il m'arrive d'être dans une ou une autre posture et de m'en rendre compte. Et aussi, par exemple, je forme des futurs recruteurs. Eh bien, quand vous êtes en entretien de recrutement, ces attitudes et ces styles de communication vont peut-être vous influencer sur le choix du candidat, ou en tout cas vont influencer l'ambiance, l'atmosphère de l'entretien de recrutement. Vos attitudes de communication, si vous êtes recruteur, vont peut-être influencer la capacité du candidat à parler de lui-même. Soit elles vont être facilitatrices, soit au contraire, elles vont freiner le candidat. Donc tout ça, c'est important de le savoir. Et au quotidien, même quand vous buvez un café avec une personne, si vous avez un style de communication trop marqué, cela peut générer peut-être des frustrations chez l'autre ou des désagréments. Ou au contraire, faciliter la communication.
J'en profite, Christine Huchette, pour préciser ici que vous êtes avant tout coach en milieu professionnel, mais vous êtes aussi coach dans une démarche personnelle. Alors, c'est pas du tout la même chose, même s'il y a des liens forcément. J'aurais envie de dire que généralement, par rapport à ce que vous venez d'exprimer, on est plutôt centré sur soi la plupart du temps. Quand on est en entreprise, ben on est centré sur l'entreprise, on est centré sur les besoins de l'entreprise. Est-ce qu'on peut, avec une démarche de coaching, réussir véritablement à être tourné vers la personne que l'on a face à soi, vraiment centré sur ce qu'est cet individu qui postule ou qui travaille déjà au sein de l'entreprise ?
Oui, c'est une démarche effectivement de développement, alors de développement personnel en milieu professionnel, on peut dire ça comme ça, puisqu'en fait, ce serait en tant que recruteur ou en tant que manager, c'est une démarche de développement personnel au service du professionnel, au service d'un recrutement, au service d'une équipe à manager. Et donc, c'est très intéressant, puisque ces attitudes, de toute façon, ces styles de communication vont influencer aussi votre leadership, votre charisme. En fait, bien souvent, les personnes qui sont trop centrées sur elles-mêmes ne favorisent pas le dialogue. Tôt ou tard, la personne qui est en face d'elle comprendra que finalement, la personne ramène tout à elle, quelque part, et donc n'aura pas envie de continuer la conversation. Et aussi, le fait d'être centré sur l'autre, hein, comme on le verra, favorise une certaine relation de confiance. En anglais, on dirait le trust. Enfin, on a envie de travailler avec cette personne parce que quelque part, cette personne génère de la confiance.
C'est amusant parce que quand vous utilisez ce mot-là, ça me fait penser à la chanson du livre de la jungle, Trust in Me. Je ne sais pas si ça vous rappelle à vous quelque chose, le fameux serpent qui ouvre des grands yeux tout ronds pour embarquer Mowgli et justement pour le manipuler au bout du compte. Donc, le rapprochement que je fais est peut-être un petit peu osé.
Non, mais de toute façon, c'est pas le sujet, mais les manipulateurs savent très bien manier tous ces outils et de toute façon, la communication est utilisée pour rendre les choses agréables et pour le bien de l'humanité, et elle est utilisée pour manipuler aussi dans un sens négatif. Donc ça, je veux dire, c'est un éternel débat, mais effectivement, les manipulateurs savent très bien comment communiquer et comment convaincre et influencer les personnes qui n'y prennent pas garde.
Alors, les prochaines fois, nous allons aborder deux par deux ces différents styles de communication. Peut-être est-ce que vous pouvez nous les rappeler et puis nous indiquer quel est le lien entre les différents styles.
Alors, on commencera par le jugement et la décision, donc des attitudes plutôt centrées sur soi, c'est-à-dire que lorsque l'on est dans le jugement ou dans la décision, on verra qu'on parle par rapport à notre propre référentiel. Par contre, nous avons aussi, dans une prochaine fois, le soutien et l'interprétation. Donc là, on commence à s'intéresser un petit peu à l'autre, mais ce n'est pas encore suffisant puisque l'autre peut, encore une fois, ne pas se sentir au centre de la conversation et au centre de la compréhension. Et nous avons enfin l'enquête et la reformulation. Et nous verrons que ces deux attitudes sont les attitudes qui sont les plus propices à engager un dialogue et à engager un accompagnement.
Pour vous, parmi ces éléments-là, ces attitudes ou styles, il y en a qui sont constructifs et d'autres qui sont plutôt à l'inverse, qui ne nous avancent pas forcément beaucoup, quoi, si je peux dire les choses à travers un euphémisme.
C'est tout à fait juste, parce que la manière dont on présente dans tous les livres ces attitudes sont toujours dans un style de développement personnel. Donc ce serait une posture où j'ai quelqu'un en face de moi et je veux l'aider. Et je veux l'accompagner. Par contre, on parlera de l'attitude de décision, qui n'est pas une attitude centrée sur l'autre, mais je suis certaine que quand on a un patron et qu'on va le voir dans son bureau pour avoir une information ou une aide, on s'attend à ce qu'il prenne une décision. Donc il y a quand même, vous verrez, ces attitudes, elles ont leur raison d'être, malgré tout, selon les situations. Donc, dans une situation d'accompagnement, il faut plutôt être dans une attitude de reformulation, mais dans une attitude de chef, de patron, il faut savoir prendre des décisions.
Donc, ces différents styles s'adaptent à différentes circonstances.
Tout à fait, voilà.
Très bien, mais nous aurons l'occasion donc dans les prochaines chroniques d'aborder les styles de communication que vous avez évoqués avec nous aujourd'hui, Christine. Donc on est pleinement à votre écoute. Merci déjà beaucoup pour cette présentation d'aujourd'hui et à la prochaine fois.
À la prochaine fois, Fabrice.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.